Le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce jeudi, nous sommes le 20 octobre. Nous parlerons de la grève du côté de Total Energy et notamment du côté de Fezin, grève reconduite au sud de Lyon. Attention aux perturbations aujourd'hui sur Rhône Express en raison d'un mouvement social. Les associations d'usagers des TER appellent au rassemblement devant la région aujourd'hui. Le conseil régional va bien se tenir en visioconférence ce jeudi et ce vendredi. Le juge des référés a rejeté la demande du groupe socialiste. Plusieurs nouveaux bâtiments sont en cours de construction sur le biodistrict de Gerland, dont un qui va servir à réunir sous un même toit les laboratoires et les bureaux de deux agences nationales. Explications et reportages dans ce quart d'heure lyonnais. Savez-vous que la LPO du Rhône, la Ligue de protection des oiseaux, vous propose d'observer la nature en pleine ville au parc de la Tête d'Or. Ça se passe un dimanche par mois. Explication avec Philippe Rivière de la LPO dans cette édition. Et puis les filles de l'OL qui ratent leur entrée en lice en Ligue des Champions, elles ont coulé face à Arsenal, battu chez elles à Décines 5-1.
Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. La fin de la grève a été votée à la raffinerie de Donges en Loire-Atlantique. Les salariés grévistes du site Flandre à Mardic dans le Nord, près de Dunkerque et de la Mède dans les Bouches-du-Rhône, ont eux suspendu leur mouvement hier soir. Le mouvement a été reconduit en revanche à Gonfreville, en Seine-Maritime, mais aussi au dépôt de Fezin, au sud de Lyon. La CGT d'y avoir proposé un protocole de sortie de crise à la direction de Total Energy. Environ 20% des stations-service sont toujours en difficulté en France, et même 30% pour la seule région Auvergne-Rhône-Alpes. 20 salariés ont pourtant été réquisitionnés hier sur la plateforme Total Energy de Fezin. 7 l'avaient déjà été lundi. De nouvelles réquisitions pourraient intervenir d'ailleurs ce jeudi, selon la préfecture. Le service Rhône Express entre la Part-Dieu et l'aéroport sera perturbé ce vendredi en raison d'un mouvement social. Rhône Express circulera uniquement entre la station Mézieux, zone industrielle, et l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry de 6h21 à 21h21 avec une fréquence de 30 minutes. Une correspondance est assurée avec le tramway T3 à l'arrêt Mézieux, zone industrielle, pour rejoindre les stations Vaux-en-Velin-la-Soie et Gare Pardieu. Les associations d'usagers des TER appellent au rassemblement ce jeudi devant le siège de la région. L'AFNOT Aura et ses associations locales alertent sur la situation que subissent les usagers sur de nombreuses lignes de TER, avec des trains trop courts, ce qui entraîne des surcharges insupportables, voire l'impossibilité de monter dans le train, dénonce dans un communiqué l'AFNOT. Elle réclame plus de trains, des conducteurs et des agents, également une meilleure qualité de transport des voyageurs à l'heure où la région se prépare à augmenter les tarifs des trains régionaux au 1er janvier prochain. La plénière du conseil régional aura lieu en visioconférence. Elle va donc bien pouvoir se tenir à distance. Aujourd'hui et demain, le juge des référés a rejeté la demande du groupe socialiste. Une décision qu'il motive en rappelant que le président du conseil régional peut prendre cette décision distancielle à la double condition que la réunion soit diffusée en direct à l'attention du public sur le site internet du conseil régional et qu'elle se déroule selon les modalités fixées par le règlement intérieur. En présentiel ou en visio, une chose est sûre, la séance promet d'être explosive. L'opposition voit dans cette visio un moyen pour Laurent Wauquiez de fuir devant ses responsabilités après que le président de la région a été épinglé par Mediapart pour son fastueux dîner des sommets, un dîner à quelques 100 000 euros.
Lyon demain, découverte.
Plusieurs nouveaux bâtiments sont en cours de construction sur le biodistrict de Gerland, dont un qui va servir à réunir sous un même toit les laboratoires et les bureaux de deux agences nationales implantées à Lyon depuis fort longtemps, mais dans des locaux séparés. En 2024, le laboratoire lyonnais de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, l'ANSES, et une partie de la direction des contrôles de l'Agence nationale de sécurité du médicament, l'ANSM, emménageront dans le même bâtiment, un ensemble conçu par le cabinet Pargade pour être plus moderne, plus écologique, plus fonctionnel et plus visible au sein du biodistrict de Lyon-Gerland. Les explications de Caroline Rigaldiès de l'agence Pargade.
C'est un bâtiment qui est à l'image de l'activité qu'il va abriter. Dans la continuité de l'engagement et de la vocation de l'ANSES et de l'ANSM. Et donc ce bâtiment, il est avant tout conçu de façon à respecter l'environnement. C'est un programme mixte avec du labo et du bureau. Nous, on a joué la superposition des espaces de bureau et des espaces de labo, en mélangeant les équipes de l'ANSES et de l'ANSM, puisque l'intérêt, c'était le travail en équipe de ces deux agences. Et donc, on a superposé un volume de bureaux à un volume, à un grand plateau de laboratoire. Et on a vraiment pensé à ce que ce bâtiment puisse être modulaire et résilient et transformable. Donc, ce sont des plateaux géométriques avec une structure très tramée et modulaire, avec très peu de poteaux, très peu d'éléments porteurs, de manière à ce qu'on puisse tout décloisonner, tout recloisonner et lui donner une seconde de vie avec une activité totalement différente éventuellement dans les dizaines d'années.
Et quel type de matériaux par exemple ?
On a bien réfléchi à tout ce qui était matériaux biosourcés, on a du béton bas carbone, on a de l'ossature bois, on a de l'enduit à la chaux, on a des menuiseries avec des vitrages à faible émissivité, on a calculé la surface de vitrage qui était optimale pour l'apport de lumière en hiver et la protection solaire en été. On a travaillé aussi sur la présence de la nature à l'intérieur, sur des loggias extérieures pour que les personnels puissent sortir s'aérer et se sortir du milieu du travail quelques instants et se détendre. La qualité de vie au travail a été un élément très important pour nous sur ce projet.
Le Centre international de recherche sur le cancer et l'Académie de l'Organisation mondiale de la santé s'installent aussi dans ce quartier de Gerland. Les deux agences, ANSES et ANSM, vont-elles rester sur le site historique de l'ANSES au 31 avenue Tony Garnier? Les 80 agents de l'ANSES seront rejoints par 70 agents de la direction des contrôles de la ANSM spécialisés dans la validation des lots de vaccins. Un service particulièrement sollicité depuis le début de la crise Covid. C'est en quelque sorte à Gerland la réunion des santé humaine, végétale et animale. Laurent Lempereur est le directeur du laboratoire ANSES de Lyon.
Le laboratoire ANSES de Lyon est un laboratoire de recherche et de surveillance de l'ANSES qui travaille sur les principaux axes scientifiques que porte l'ANSES. Alors le plus connu peut-être c'est l'antibiorésistance, le problème de résistance aux antibiotiques hein, qui est un problème de santé publique majeur dans le monde. Donc nous on travaille à comprendre les mécanismes et à surveiller l'évolution de la résistance aux antibiotiques. Alors initialement dans le monde animal, en termes d'élevage, mais en lien avec l'environnement et en lien avec la santé humaine. Nous sommes aussi laboratoire de référence sur les prions, maladie à prions, la maladie de la vache folle. Fort heureusement l'épidémie est derrière nous maintenant et fort de toutes les compétences qu'on a acquis sur cette maladie neurodégénérative, aujourd'hui on étudie le risque de l'exposition à des pesticides sur la création de maladies neurodégénératives et notamment la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer. Et puis on évalue aussi l'effet des pesticides et notamment l'apparition de phénomènes de résistance sur les insectes, ce qu'on appelle les ravageurs des plantes, pour voir si l'adaptation biologique ne crée pas des résistances aux pesticides, un peu comme pour les antibiotiques, hein, qui ferait qu'au final les pesticides seraient utilisés à mauvais escient puisque inefficaces. Voilà en gros les grands thèmes de recherche de mon labo, donc basé à Lyon. L'intérêt donc avec la NSM en fait, c'est de pouvoir rejoindre des équipes, alors eux qui sont sur le médicament, les vaccins, les médicaments dérivés du sang, mais en gros on est deux agences de sécurité sanitaire. Donc notre ambition vis-à-vis des citoyens, c'est d'assurer la sécurité sanitaire, hein, soit par les médicaments qu'ils utilisent, qu'ils soient de qualité et qu'ils soient sûrs, et puis nous, de leur apporter aussi plus de connaissances pour un meilleur usage des antibiotiques, un meilleur usage des pesticides. La première logique de ce rapprochement, elle était purement calendaire, puisque la NSM devait quitter ses locaux, puisque c'est l'OMS Academy qui va être installée sur leur site actuel, et donc était en recherche de nouveaux laboratoires. Et nous-mêmes, on a des locaux très vieillissants, et on était en questionnement sur est-ce qu'on reste ici, est-ce qu'on rénove nos bâtiments, est-ce qu'on construit des nouveaux bâtiments. Donc le fait que les deux agences aient eu ce même questionnement nous a naturellement, parce qu'on se connaît, hein, on est des agences sanitaires, nos directeurs généraux contribuent ensemble aux politiques publiques, on s'est retrouvés du coup pour se dire finalement il y a peut-être un enjeu intéressant, à la fois on va dire économique, d'avoir un bâtiment commun, de mutualiser nos moyens, mais surtout scientifique, en gros de rapprocher nos équipes et d'avoir une approche plus transverse encore que ce qui existait déjà sur des thèmes communs. Et là à Lyon on avait des thèmes communs, donc on avait en tout cas des passerelles, on avait aussi des technologies communes, notamment la biologie moléculaire, parce que quand on fait de l'antibiorésistance on travaille sur les gènes, quand on travaille sur la biologie, notamment les vaccins, on voit les nouvelles technologies sont beaucoup basées sur la génétique, sur la biologie moléculaire. Bon, ben là, typiquement, le laboratoire de Biomol, on va le mutualiser, ça va nous permettre de mutualiser les moyens, et puis de faire échanger des scientifiques qui font de la biologie moléculaire ensemble, et donc peut-être d'avoir des approches différentes et d'enrichir nos connaissances scientifiques.
La métropole a apporté 12 des 36 millions d'euros du budget total pour la construction du nouveau bâtiment. La ville a aussi mis la main à la poche à hauteur de 2 millions d'euros pour la démolition et la dépollution du site. Nous reviendrons plus longuement sur la présence de ces deux agences à Lyon dans une prochaine édition du Quart d'heure lyonnais. Le programme complet sera dévoilé seulement le 7 novembre, mais la mairie du 5e arrondissement vient de lever le voile sur l'une des œuvres présentées dans le quartier du Bieu-Lyon dans le cadre de la Fête des Lumières qui aura lieu du 8 au 11 décembre. L'artiste Jacob Quist installera son œuvre de lumière au Temple du Change, intitulée Inside Out. Elle représente un lever de soleil lumineux qui, lorsqu'il se fond dans l'atmosphère, crée une transition entre les couleurs jaune, orange et rouge, puis du magenta au violet pour finir avec du bleu foncé. Le Temple du Change, donc, à ne pas manquer pour cette Fête des Lumières.
Lyon demain, Planète pour tous.
Vous vous passionnez pour la faune sauvage, mais vous n'avez pas forcément le temps de faire des kilomètres pour aller la découvrir. Sachez que tous les mois, la LPO du Rhône, la Ligue de protection des oiseaux, vous propose de l'observer en pleine ville. Ce sont les bénévoles de la LPO qui vous servent de guide et il suffit de se rendre au parc de la Tête d'Or. Pas question d'aller voir les lémuriens en cage ou les porcs-épics dans leur enclos, encore moins les crocodiles puisqu'ils sont partis à Agadir. Non, le point de ralliement est situé sur la terrasse du chalet du parc où des bénévoles vous attendent avec quelques lunettes sur pied pour observer ce qui se passe tout autour, en particulier sur le fameux lac de la Tête d'Or. Nous y avons croisé Philippe Rivière qui nous raconte ce que l'on peut découvrir ici en pleine ville.
Du mois d'octobre jusqu'au mois de juillet, tous les seconds dimanches de chaque mois, nous accueillons le public sur un petit stand avec longue vue jumelle pour parler de la LPO, de ses actions, de ses combats et en même temps pour parler un peu de la vie faune sauvage du parc.
Alors, on a l'habitude d'entendre parler surtout des combats de la LPO, mais la LPO a aussi un rôle pédagogique.
Tout à fait. Je crois que la sensibilisation et la pédagogie sont les premiers combats de la LPO. Il faut que les gens sachent qu'il faut absolument protéger cette biodiversité, parce que la LPO, ce sont bien sûr les oiseaux, mais aussi l'ensemble de la biodiversité. Et en sensibilisant les gens, en leur faisant connaître ce qui les entoure, voir ce qui les entoure, je pense qu'on peut les sensibiliser.
Là, vous avez quel équipement, par exemple, pour travailler et pour observer quel
Alors
type
là,
d'espèces ?
On a deux longues vues. On observe l'île au centre du lac où se réfugient tous les soirs les hérons garde-bœufs, des aigrettes garzettes, des hérons cendrés. Et on a même la chance que certains nichent. Donc on peut apercevoir les nids, on peut apercevoir des jeunes. Et puis alors ce qui est bien, c'est qu'en hiver, le lac sert de reposoir à pas mal d'oiseaux migrateurs. Hein, des canards, nets rousses, canards souchés. Donc ça nous permet de faire un petit peu d'ornitho avec le grand public.
La biodiversité a un rôle important dans ce parc ?
On ne peut pas vivre sans biodiversité. Donc ce parc est magnifique, il faut vraiment le préserver, c'est ce que fait la ville de Lyon. Il faut le préserver, mais il faut aussi inciter les utilisateurs à le protéger et à en prendre soin, et en même temps prendre soin de la biodiversité qui l'habite.
Et parce qu'on peut concilier plusieurs millions de visiteurs par an et justement la conservation d'une certaine tranquillité pour les espèces.
Je crois qu'il faut. Il faut, hein. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Ça n'est pas simple. C'est pour ça que la sensibilisation entraîne le respect. Le respect peut-être des zones tranquilles, le respect des nids, lorsque les gens en trouvent, et éviter le dérangement quand c'est possible.
Quels sont les comportements à éviter, par exemple, sur un site comme ça ?
Bon, ne pas jeter de cailloux, ne pas rentrer dans l'eau, ne pas baigner son chien, même si aujourd'hui, ces pauvres chiens, ils ont bien besoin de fraîcheur. Éviter d'aller dans les fourrés qui sont indiqués zone de protection, zone de nidification. Voilà, il faut que le parc continue à bien indiquer ces zones qui sont réservées à la biodiversité et les zones qui sont réservées aux promeneurs. Il ne faut absolument pas donner du pain aux oiseaux. D'ailleurs, à toute la faune sauvage, hein, que ce soit les hérissons et autres, parce que le pain, d'abord, pollue l'eau énormément et est très néfaste pour les oiseaux. Ça crée des fragilités. D'abord, ça détruit le foie. C'est cette histoire de gluten, hein, comme chez nous. Ça crée des fragilités dans les os et les oisillons naissent avec des malformations. Donc c'est catastrophique. Surtout pas de pain. Il y a plein de recettes pour utiliser le pain dur, le pain perdu, les croûtons, les puddings, mais surtout pas aux oiseaux.
Et si on peut se permettre quelque chose, ce serait quoi par exemple ?
Moi je dirais qu'il faut, si on a un jardin par exemple, il faut faire de son jardin un lieu accueillant, avec des herbes hautes, avec des graines, avec des buissons à baies. Et puis si ça manque un peu, on peut faire non pas un nourrissage, mais un apport, un petit coup de pouce alimentaire pendant la saison froide. Et l'idéal, c'est du tournesol. C'est ce qui est le plus local. On peut en trouver du bio. Ça plaît à la plupart des espèces. Voilà. Mais déjà, faire de son terrain, ou de son parc, ou de son jardin, un terrain accueillant et riche en végétaux.
Philippe Rivière de la LPO. Les observations sont organisées tous les deuxièmes dimanches du mois, de 9h à 13h, sur la terrasse du chalet du parc. Inutile de réserver, il suffit de se présenter sur place. Les filles de l'Olympique Lyonnais ont raté leur entrée en lice en Ligue des Champions. Les joueuses de Sonia Bonpasteur ont coulé face à Arsenal, chez elles, à Décines, battues 5-1. Les octuples championnes d'Europe n'ont pas su répondre aux défis athlétiques imposés par les Britanniques. Elles encaissent leur première défaite dans la compétition. Rien n'est joué pour autant, bien sûr, pour l'Olympique Lyonnais, à qui il reste encore 5 matchs dans cette phase de poule pour changer la donne. La prochaine rencontre, ce sera à Turin, le 27 octobre, face à la Juve. La Coupe de France, deux derbies rhodaniens au 7e tour. En effet, le tirage au sort a a eu lieu hier. Les clubs de Ligue 2 entrent en scène à ce niveau de la compétition. Pas de gros chocs en perspective, mais deux beaux derbys indécis. Saint-Priest-la-Duchère et Vénissieux-Limonest à l'affiche de ce 7e tour de la Coupe de France le 30 octobre. Le FC Vaux aura un déplacement difficile également à effectuer chez Jura Sud. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, mêmes antennes pour la dernière édition de la semaine. Excellente journée.